et non des enquêtes publiques qui supposent des enquêtes avec un commissaire enquêteur, eh bien les recours ensuite sont plus nombreux. Donc c'est un très mauvais calcul et c'est tout simplement un déni de démocratie environnementale qui pourtant aujourd'hui est tellement mise à mal.
Alors ce décret, j'ai lu aussi qu'il instaurait un délai de rigueur. Qu'est-ce que c'est ce délai de rigueur ?
Alors on va avoir aussi beaucoup moins de temps pour recourir au tribunal, c'est-à-dire qu'avant on avait une période très très étendue, donc c'est ça vraiment qui est très visé, c'est-à-dire qu'avant le recours gracieux, faute de réponse au bout d'un mois ou deux, on pouvait faire un recours dans les 2 mois qui suivaient. Or là en fait tout est raccourci. Dès la publication sur le site internet de la préfecture, nous n'avons plus qu'un mois, je crois, pour déposer les éléments, un recours éventuel à la cour administrative, ce qui induit en fait de devoir, dès l'enquête publique, travailler avec cet esprit-là, puisque nous n'aurons jamais eu en amont une proposition d'arrêté préfectoral d'exploitation sur lequel nous pourrions proposer des améliorations, par exemple, ou faire des mises en garde. Donc on coupe complètement aujourd'hui les moyens de concertation, sachant que les enquêtes publiques sont en général des tartufferies, puisque les commissaires enquêteurs ne répondent pas aux questions, puisque même quand vous avez une opposition à 95% sur un projet, ça ne change strictement rien. Et que les commissaires enquêteurs, globalement, ne donnent pas d'avis défavorable.
J'ai vu que ça ne s'appliquait pourtant qu'à 5 catégories de projets. Les énergies décarbonées, donc l'éolien, le solaire, certainement l'hydroélectricité aussi, méthanisation, les transports, la souveraineté alimentaire, économique et enfin industrielle. Tous, on pourrait dire, alors peut-être les transports, ça dépend lesquels, ont quand même cet objectif de faire rentrer le pays dans une forme de transition et d'adaptation. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors aujourd'hui, nous sommes encore à l'échelle nationale dans le tout aménagement routier, hein, qui est quand même pas du tout le bon exemple en termes de transition écologique, de décarbonation. Donc on a encore une forme de folie à construire des deux fois deux voies partout. Il y a des projets de contournement autour de Toulouse pour gagner une minute, des projets de contournement dans l'Aveyron, la N21 dans le 65, je ne vous parle même pas de la 69. C'est à chaque fois des projets surdimensionnés qui consomment, qui ont une emprise au sol monstrueuse, qui coupent toutes les corridors écologiques, qui utilisent énormément de matière et de bitume. Donc en fait, ces projets-là sont souvent soi-disant d'intérêt général et ou d'intérêt public. Et cette dénomination suffit à rentrer dans le cadre du décret. Et ce sera très difficile de les contester, même si vous avez la disparition de 15 hectares, 20 hectares, 30 hectares de zones humides. Donc en fait, les aménagements routiers sont très, très, très destructeurs de biodiversité. On pourrait penser que ce sont des aménagements du 20e, mais là, le lobby des BTP, on va dire, est encore extrêmement puissant. Et on voit bien avec la 69 dont le trafic ne justifiait pas une autoroute. Et pourtant, cette autoroute est passée en dépit des alternatives proposées.
Donc là, on parle des transports. Et sur les autres, quel regard porte FNE sur les projets de transition énergétique dans le grand champ d'éolien ou de solaire ?
Alors, sur le solaire, en plus, récemment, ils ont une velléité de diminuer les études d'impact, donc c'est aussi un autre aspect. Hein, donc, le solaire, il y a une problématique agricole importante. La Confédération paysanne s'oppose aux panneaux photovoltaïques au sol parce que ça vient pérenniser un usage qui empêcherait l'adaptation de l'agriculture, notamment au réchauffement climatique. Et donc là, il est question aussi d'augmenter les seuils à 3 MW pour les études d'impact sur les panneaux photovoltaïques.
Donc alors 3 mégawatts, ça fait combien de surface au sol ?
Je ne pourrais pas vous dire là en hectares parce que ça va dépendre un petit peu de comment ils sont espacés, etc. Donc, mais en tout cas, on est dans une poursuite effrénée de vouloir systématiquement augmenter les seuils pour lesquels on peut s'affranchir d'études d'impact. Donc on a vu dans le Lot notamment des projets qui finalement n'ont pas eu lieu mais qui étaient sur des 40 hectares et vous aviez mais une faune, notamment en termes d'insectes, complètement exceptionnelle. Et là, on nous disait simplement que c'était logique qu'on puisse éradiquer tout ça. Donc aujourd'hui, c'est bien encadré réglementairement, les choses ont évolué. Pour autant, il y a un enjeu agricole à bloquer certains sols. qui est quand même à prendre en compte et qui, malgré la réglementation sur le photovoltaïque, sur l'agrivoltaïsme, bien moins qu'avant, mais en tout cas peut encore conduire à des dérives et à notamment à empêcher des jeunes agriculteurs de pouvoir compter sur certaines terres quand ils voudront s'agrandir. Donc là, il y a en termes de photovoltaïque aussi un certain nombre de pressions des lobbies dont les maires subissent les conséquences aussi, il faut reconnaître. Hein. On ne peut pas leur jeter la pierre, mais ils ont une pression énorme pour pouvoir implanter des projets sur leur commune. Et nous, FNE, on est assez souvent sollicités par des maires qui nous disent « mais on ne sait plus quoi faire, on a 10 projets sur la commune et on nous promet des chèques mirobolants ». Et ce qui se passe, c'est que quand un maire entend dire qu'il va toucher 100 000 euros et qu'il doit restaurer son église, eh bien, une fois qu'il a eu le montant, il a du mal à penser qu'il ne va pas la restaurer, l'église. Ça, c'est des directions départementales des territoires qui nous partagent ça. Donc, la pression financière du fait des lobbies, parfois étrangers, en ce qui concerne le photovoltaïque, est vraiment très agressive, en fait. Très agressive. Les projets ralentissent un peu, cependant, du fait aussi de la moins grande demande et de la faiblesse des prix d'électricité aussi. Hein, donc y a beaucoup de...
C'est-à-dire le nucléaire étant à la mode pour le gouvernement, les prix de rachat de l'électricité issue du solaire sont absolument plus rentables pour les porteurs de projets, sauf les très gros. Bien évidemment, eux s'en sortent toujours avec des enjeux d'échelle. Et je ne comprendrai jamais pourquoi on a besoin de terres agricoles alors qu'il y a tellement de zones, de friches industrielles, de zones industrielles, de zones commerciales dont tous les bâtiments pourraient être recouverts de solaire, de parking sur les supermarchés. Il y a tellement de zones déjà artificialisées qu'il suffirait quand même de mettre les panneaux à cet endroit-là et pas en pleine nature.
Alors en fait, on pourrait même envisager la couverture de périphériques, hein, de panneaux photovoltaïques, qui auraient l'avantage en fait de se rendre compte pour les citadins de la nécessité d'énergie renouvelable, parce qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus le monde rural qui supporte, on va dire, des quantités importantes dans certains départements, pas dans tous, mais en Occitanie on atteint nos objectifs pratiquement en termes d'énergie renouvelable. Et donc ça serait très bien aussi que les villes soient contributrices. Avec un avantage énormément, c'est que ce sont elles qui consomment. Et aujourd'hui, il y a un ralentissement aussi du fait de la difficulté de la surconcentration électrique des postes sources. Donc, il commence à y avoir des aménagements du territoire pour essayer de reventiler l'énergie. Mais n'oublions pas qu'il y a déjà des endroits en France où les éoliennes ne tournent plus parce qu'il y a trop d'électricité sur certaines zones. Donc, ce qu'on peut constater, c'est le manque total de cohérence de la gestion de toutes ces énergies renouvelables, le revirement scandaleux de l'État par rapport aux objectifs en termes d'énergie renouvelable et de bilan carbone. Ils ont sorti de leur chapeau, comme d'habitude, le nucléaire, qui est une énergie quand même qui, par rapport aux générations futures, est quand même une hypothétique. On hypothèque la vie des générations futures avec les déchets nucléaires. Donc c'est un gouvernement qui n'a pas de constance dans ses orientations. Qui revire et qui retourne sa veste sans arrêt par rapport à l'écologie, bien évidemment, qui là a pris un coup derrière la tête avec des retours à 10 ans en arrière par rapport aux lois du plomb, par rapport à un certain nombre de décrets, de déréglementations sous le prétexte de la simplification. Étourdissante.
Alors nous voilà de retour avec Cécile Argentin. Cécile Argentin, présidente de France Nature Environnement Occitanie Pyrénées. Je voulais voir avec vous, on a parlé de ce décret donc qui vous empêche de vous battre contre les projets. On arrive à comprendre parfois les aménageurs qui vous disent c'est agaçant pour une petite chauve-souris, pour une petite bête, on voit des projets d'intérêt collectif freinés. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Alors, en fait, le code de l'environnement n'est pas une variable, ne devrait pas être une variable d'ajustement. Et actuellement, l'environnement est inscrit dans le code de l'environnement, qui fait partie de la loi française, et que ça veut dire bien évidemment qu'il est reconnu d'utilité publique lui aussi. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup d'aménagements. Effectivement, c'est vécu comme une contrainte que de devoir tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Pourtant, dans ces projets-là, tout en tenant compte des paramètres, il y a quand même de vastes destructions de biodiversité. C'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelle des mesures compensatoires, dans le cadre de ce code de l'environnement où on a une séquence éviter, réduire et compenser. Et en fait, l'évitement est rarement ce qui est choisi en premier. Par conséquent, il y a inévitablement destruction et la compensation n'est jamais opérationnelle.
Ça ne marche pas quand il faut refaire une zone humide, ça ne marche pas ?
Alors, il y a beaucoup de paramètres qui font que, d'une part, ce n'est pas suivi. D'autre part, c'est trop délocalisé par rapport au site d'origine, donc il n'y a pas de transfert d'espèces. Et enfin, ce qui devrait être mis en œuvre avant la destruction ne l'est jamais. Et par ailleurs, il n'y a pas de cas.
C'est-à-dire de sauver les animaux pour les remettre ailleurs ?
Alors, c'est un cas assez rare où on peut faire des transferts. Mais assez souvent, c'est 10 km plus loin ou des choses comme ça. Donc en fait, une zone humide, ce n'est pas seulement des espèces. C'est un équilibre d'un écosystème qui fait qu'à partir du moment où on change la donne, les grenouilles ne vont pas faire 10 km à pied et on ne va pas les transférer non plus. Donc c'est rarissime qu'on transfère les espèces.
Et puis c'est l'alimentation souvent de nappes phréatiques. Donc c'est souvent l'alimentation aussi de ruisseaux. C'est tout un écosystème en aval et de services écosystémiques rendus à l'homme parfois aussi.
Donc aujourd'hui, c'est très approprié d'en parler, puisqu'on a une crise de l'eau qui se dessine. En fait, nous avons perdu des milliers d'hectares de zones humides en 40 ans d'aménagement. Or, aujourd'hui, une des premières problématiques en cas de sécheresse, c'est bien la réalimentation des nappes phréatiques. Et les zones humides sont précisément des espaces, comme les prairies humides, en fait, qui vont permettre une infiltration douce, c'est ce qu'on appelle l'eau verte, qui va retourner à la nappe tout en étant filtrée. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'inondations sont aussi liées à l'imperméabilisation, qui précisément a été faite en partie, souvent sur des zones humides, marécageuses, ou en tout cas qui permettaient de temporiser les inondations et les pluies importantes. Donc en fait, aujourd'hui, on subit les conséquences de 40 ans de remembrement, plus la densification des terres qui fait que l'eau ne s'infiltre pas, plus énormément de terres agricoles qui pourraient y accéder, certes, mais ont été drainées et donc canalisent une eau de manière très très rapide. Donc je vous donne un exemple, la ville de Dax, par exemple, aujourd'hui, quand il y a des gros orages, elle est inondée trois fois plus vite qu'avant pour des orages au même endroit. Donc c'est pas seulement ce qu'on a fait il y a 5 ans, c'est un ensemble de mesures, d'aménagement, de tout béton. Moi, depuis que je suis dans les Hautes-Pyrénées, j'ai vu des kilomètres de fossés se transformer en tuyaux. Et donc là, il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas de filtration, et donc il y a une accélération des cours d'eau. Donc un aménageur peut effectivement voir les choses différemment. Mais en tout cas, nous subissons à contre-coup les frais, on va dire, de l'imperméabilisation et de l'hyperaménagement dont nous n'avons pas forcément besoin.
Et donc, comme vous le dites, vous êtes là, vous, avec FNE, pour faire respecter le code de l'environnement et l'environnement général qui est inscrit dans la Constitution française maintenant. J'ai envie de voir avec vous, Cécile, il y a quand même d'autres sujets aussi. C'est-à-dire que on entend beaucoup parler d'environnement de santé, on en entend parler depuis très longtemps, mais là, on a l'impression qu'il y a aussi une accélération des dossiers et une accélération également du pouvoir des lobbies pour empêcher certains énormes dossiers. On a l'impression qu'il y a 40 ans, finalement, certains scandales sanitaires auraient été réglés beaucoup plus vite que maintenant. Est-ce que c'est, voyez-vous aussi là, un poids des lobbies de plus en plus fort pour freiner l'amélioration de la santé liée à l'environnement ?
Alors aujourd'hui, un grand sujet de santé, c'est effectivement l'imprégnation de la population aux pesticides via l'air, via l'eau. Aujourd'hui, on est dans le déni complet, bien évidemment. Un des exemples, c'est que si on n'était pas dans le déni, on aurait mis des registres du cancer dans tous les départements, par exemple. C'est vraiment un détail. Et puis, si on voulait prendre soin de notre santé, eh bien, on ne ferait pas ce qu'on est en train de faire. On ne ferait pas des lois du plomb, on ne ferait pas des facilitations pour utiliser encore plus de pesticides, alors que précisément aujourd'hui on connaît parfaitement la toxicité. Les deux études Agricant 1 et 2 menées par les chambres d'agriculture ont bien identifié tous les cancers auxquels sont exposés les mondes agricoles, les cancers des enfants. Je rappelle quand même, et ça c'est très important, qu'il y a un fonds aujourd'hui qui est dédié aux enfants qui, en tant que fœtus, ont subi une intoxication aux pesticides et qui donc sont indemnisés puisqu'ils en ont des séquelles physiologiques et à vie. Donc ça, c'est pas un délire écologiste, c'est mis en place par la santé publique, par l'ARS, par la sécurité sociale. Et donc on continue de faire comme si. Donc aujourd'hui, clairement, ni l'État ni l'ARS n'est préoccupé par ces sujets-là qui sont beaucoup trop portés par les lobbies. Et je vais donner un exemple, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a beaucoup réagi sur la nouvelle mode du cadmium, qui certes est une intoxication importante, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, puisqu'on ne veut toujours pas légiférer sur les pesticides, et bien au contraire, on déréglemente. Je rappelle un petit point de détail, c'est la façon dont sont tenues ces études-là, qui sont juste absolument pas fiables. Je vous donne un exemple. Vous prenez 50 lapins sur une étude, ou 50 rats sur une étude pesticide. Il y en a 15 qui meurent pour une raison inconnue. Ils ne font pas partie de l'étude. Donc, en fait, c'est une supercherie totale aujourd'hui, les études d'impact et de toxicité des pesticides.
Sans parler des effets cocktails, évidemment, de tout ce qu'on retrouve, puisqu'il y a d'autres choses qu'on trouve, et c'est parfois ça le plus dangereux.
Voilà, donc la région de La Rochelle en est l'illustration, hein, avec beaucoup de cancers pédiatriques entre autres, des nappes archipolluées pour lesquelles les autorités avaient voulu faire par exemple du maraîchage biologique, et bien c'est même pas possible étant donné la toxicité de l'eau dont ils auraient besoin. Dans le Gers, je vous donne un exemple, les eaux du Gers sont très contaminées pour l'eau potable au PFAS issu du TFA, qui est un PFAS agricole. Et pour l'instant, ce n'est pas réglementaire, puisque ce sera que l'année prochaine. Donc les gens boivent de l'eau, qui pour les femmes enceintes ou pour les enfants n'est pas conseillée, mais on ne le dit pas. Simplement parce qu'on attend que ça devienne obligatoire de le dire. Donc c'est de la pure inconscience. Et donc je continue à dire que les politiques ne veulent pas du bien à la santé, particulièrement celle de nos enfants.
Quels sont vos rapports avec les scientifiques? Vous êtes dans le même bateau finalement? Vous avez cette impression que les pouvoirs publics n'écoutent même plus les scientifiques indépendants?
Alors l'année dernière, nous avions fait un séminaire sur l'eau potable et la santé, précisément, et nous avons fait venir un certain nombre de scientifiques qui parlent à l'unisson sur l'état critique, notamment sur les pollutions de l'eau dans lesquelles nous nous trouvons. Et donc, clairement, aujourd'hui, il y a une forme de dissociation entre la conscience scientifique, la connaissance scientifique et le monde politique. Et donc aujourd'hui, nos députés et nos sénateurs en sont l'illustration totale, le déni total des impacts qui sont pourtant connus depuis très longtemps. La même chose pour le réchauffement climatique, puisque le réchauffement climatique, il a été annoncé il y a plus de 40 ans. Et puis aujourd'hui, on est encore là. Et moi-même, je suis confrontée à des élus qui disent oh, peut-être ça va peut-être changer, mais bien sûr que non. Intellectuellement, il n'y a pas de goût pour creuser les éléments scientifiques. Il n'y a pas de partage. Donc nous, on essaye de se rapprocher du monde scientifique. C'est ce qu'on fait. On voit bien que c'est compliqué pour eux. Il ne faut pas oublier que les budgets de la science, de la recherche sont vraiment coupés de manière très importante. Et donc, on se moque de l'Amérique, mais en fait, on n'est pas très loin quand même par rapport à ce déni de la science, notamment en ce qui concerne l'environnement, la santé et cette santé globale, en fait.
Bon, tout ça est bien noir, mais si l'Argentin, est-ce qu'il y a de l'espoir ?
Alors, bon, bah, j'ai 60 ans et en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent et qui ont une prise de conscience que nos élus n'ont pas. Et donc, elles le manifestent de manière différente. Et ça, c'est un espoir. On pourrait espérer aussi qu'arrêter de détruire conduirait petit à petit à une résilience des milieux, ce qui est possible. On assiste parfois, y compris dans des milieux très dégradés, si on arrête d'y déverser des choses toxiques ou d'arrête d'intervenir, eh bien, il y a une résilience qui se crée. Toute nature est bonne, il n'y a pas de nature invasive ou pas. Bien sûr, il existe des espèces invasives, mais ce qui est important, c'est la vie qui prospère. Et ce que nous, on pourrait espérer, en fait, c'est que la fracture sur une partie des gens entre la nature et le monde urbain se réduise. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont de décisions délétères qui sont aussi prises par méconnaissance des milieux, par méconnaissance, voire n'avoir jamais mis les pieds dans des milieux naturels absolument magnifiques. Et nous constatons en campagne effectivement que les vacanciers qui viennent souvent, même des fois, font des atteintes, mais juste par méconnaissance. Et donc pour moi, il y aurait un enjeu très très important.
D'éducation à la nature.
D'éducation à la nature, à ouvrir les gens vers une nature qui est bénéfique pour la santé d'ailleurs. Il faut créer une rupture dans nos fonctionnements. Il y a toujours beaucoup de résistance au changement. Mais en tout cas, l'hyperconsommation, l'hyper-artificialisation nous éloigne trop de cette nature.
Et l'artificialisation des cerveaux qui va avec.
Voilà. Et donc, après, c'est difficile de faire comprendre aux gens quels sont les enjeux de la conserver, de la préserver. Enfin, sans nature, sans pollinisation, c'est l'alimentation qui cesse. Donc, il y a une pédagogie à faire et surtout à considérer que cette nature n'est pas l'adversité, mais bien une nature qui nous soutient, nous, dans tous nos moyens d'existence.
Merci, Cécile Argentin. On rappelle, donc France Nature Environnement, si les gens veulent participer, c'est une association qui accueille des bénévoles, n'hésitez pas. Et évidemment, si vous êtes juriste, vous êtes les bienvenus, c'est ça le message ?
Oui, oui, en fait, tous les bénévoles sont les bienvenus. On fait aussi beaucoup d'informations avec des scientifiques, notamment des séminaires. On rédige aussi beaucoup de choses. On est aussi présent dans beaucoup de commissions et là, on manque de recrues aussi. C'est des réunions où on porte à connaissance notre plaidoyer, si on peut dire. Et c'est important de le faire en tant qu'association de protection de nature-environnement, car on est souvent un peu seul à porter ce discours-là dans des commissions où il y a 50% d'élus et 30% des services de l'État.
Agir pour l'environnement, chers auditeurs, c'est agir pour notre futur à tous et un futur vivable. Bonne semaine, au revoir.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec moi d'échanger, je vous remercie beaucoup.
L'ours et la carotte, écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.
HTS.
C'est sur le 99.1.
Le mix.
Cet été, vos vendredis prennent des couleurs. Du 10 juillet au 21 août, de 19h à minuit, vivez le festival estival à la Maison Quartier Jean Texier, 78 rue Jean Texier à Rouen. Concerts, DJ sets et de nombreux artistes, le tout 100% gratuit. Vendredi 17 juillet, chef de train en concert.
Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire.
Ça y est, je capte un signal.
Écoutez.
Et tous les dimanches, dès 22h, voyagez dans le spectre sonore du solénoïde.
Qu'est-ce qu'il dit là ? De quoi il parle ?
Ah ben ça, je sais pas.
En l'espace de 60 minutes, solénoïde vous fera traverser des paysages sonores insolites.
Qu'est-ce que tu vois ?
Solénoïde, et tous les dimanches, dès 22h.
Préparez-vous à plonger dans l'époque dorée du jazz, de la Nouvelle-Orléans à Harlem, de Chicago à Paris.
Les années de jazz.
L'émission présentée par Michel Jules vous emmènera dans un tourbillon musical où le passé rencontre le présent.
Chaque samedi, de 18h à 19h sur Radio HDR.
Laissez-vous porter à travers les décennies pour un voyage sonore unique. Venez découvrir les anecdotes, les mélodies, les rythmes, les chefs-d'œuvre et les grandes figures qui ont fait l'histoire du jazz.
Ne manquez pas notre rendez-vous de jazz hebdomadaire tous les samedis de 18h à 19h sur Radio HDR et en rediffusion le mercredi à 19h.
Alors, préparez-vous à swinguer et à vibrer avec les années de jazz, l'émission animée par Michel Jules sur Radio HDR 99.1 FM.
J'ai oublié de vous dire, il y a un petit changement.
Ah oui ? Bienvenue dans la Midinale, l'émission du mix des cultures de l'été sur Radio HDR. tous les mercredis
de 12h à 13h,
des news, des actus et des chroniques pour tout savoir sur les événements de l'été dans la métropole rouennaise.
Ah bon, bah c'est bien ça. Ça, c'est très bien.
La Midinale, c'est tous les mercredis
de midi à 13h
sur le 99.1
de la bande FM.
Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire.
Ça y est, je capte un signal.
Écoutez.
Et tous les dimanches, dès 22h, voyagez dans le spectre sonore du solénoïde.
Qu'est-ce qu'il dit là? De quoi il parle?
Ah ben ça, je sais pas.
En l'espace de 60 minutes, solénoïde vous fera traverser des paysages sonores insolites.
Qu'est-ce que tu vois?
Solénoïde, et tous les dimanches, dès 22h.
HTR, le mix 99.1.